Jacques Lacan. Séminaire Les Non-Dupes, R. Le 21 mai 1974.
L'excuse de ce retard est vous remercier de m'avoir attendu. Que je persévère quant à ce fondement que cette année je donne à mon discours dans le nœud borroméen. Le nœud borroméen est ici justifié de matérialiser, de présenter cette référence à l'écriture. Le nœud borroméen n'est dans l'occasion que mode d'écriture. Présentifier le registre du réel. Quand, au départ, je me suis interrogé sur ce qu'était l'inconscient, entendu le prendre qu'au niveau de ce qui constitue effectivement l'expérience analytique. À ce moment, je n'avais d'aucune façon élaboré le discours comme tel, la notion, la fonction du discours ne devait venir que plus tard, c'est pour autant que ce discours est un lien social et donc il faut le dire politique. C'est autant que ce discours le situe que le parler discours, mais je ne partais que de l'expérience et dans cette expérience que langage, que quelque chose qui contestablement s'impose de la pratique de l'analyse, que la pratique de l'analyse est fondée sur un pathétique, qu'il s'agit de situer, et comment on y intervient. Un intervenir fait surgir la notion d'acte. Il est essentiel également la pensée, cette notion d'acte, et de démontrer comment peut venir à consister d'un dit. Dans le temps, comme on dit, cru devoir faire remarquer que l'analyse non seulement n'opère que de parole, mais se spécifie de n'opérer que de cela. Refusant cette intervention sur le corps, par exemple, qui passe par l'absorption sous une forme quelconque de substance qui entre dès lors dans la dynamique chimique du corps, par exemple. Médicament, on appelle cela. Bon. Le point où j'en suis, c'est simplement quelque chose que tout, n'est-ce pas, le texte que vous pouvez dire ici, dessiner, c'est que il y a un lien. Mais il s'agit de savoir lequel entre le sexe et la parole. Il est clair que le sexe comporte la dualité de la structure corporelle. Dualité qui se réfléchit en cascade, si on peut dire, sur la dualité, par exemple, du sommeil, du soma et du germen, sur l'opposition du vivant au monde inanimé, etc. La notion de dualité suffit-elle à homogénéiser tout ce qui est deux? Vous voyez tout de suite que ce n'est pas vrai. La seule énumération que j'ai faite, n'est-ce pas, de la dualité de structure corporelle, de la dualité du soma et du germen, de la position du vivant au monde inanimé, ça doit vous suffire à voir que cette polarité, pour l'appeler par son nom, n'homogénéise nullement la série des pôles dont il s'agit, n'est-ce pas? Suffit donc une façon à faire que la notion de monde ou d'univers soit corrélée à cette chose impensable qu'est le sujet, en tant qu'il serait quoi? Le reflet, la conscience du monde. Et ceci en raison de ce que j'appellerais le pathétique des sens. Il n'y a pas lieu de s'émerveiller qu'il y ait un être pour connaître quoi? Le reste, n'est-ce pas? Et c'est évidemment de tout temps que la métaphore du rapport sexuel a été employée pour cette dualité patente, mais spécifiée, locale, distincte des autres dualités. D'où l'accent donné au mot connaître, d'où aussi l'idée d'actif et de passif, sans qu'on puisse savoir d'ailleurs dans cette polarité du sujet du monde, où est l'actif, où est le passif. Il n'y a aucun besoin d'un actif pour que le pathétique subsiste et s'atteste dans notre vécu, comme on dit, nous souffrons. C'est de ça qu'il s'agit quand il s'agit de l'analyse. Nous agissons aussi pour sortir de cette souffrance. Et à l'occasion, nous mettons savoir ce que sont deux personnes, comme on dit, c'est-à-dire deux animaux situés d'une organisation politique très spécifique, par ce que j'ai appelé un discours. Il s'agit de savoir ce qu'elles tirent d'un échange ritualisé de paroles et ce qu'on appelle, qui est supposé être en jeu dans cet exercice, à savoir l'inconscient. Là, j'essaie de vous dire qu'il y a du savoir dans le réel. Il fonctionne sans que nous puissions savoir comment l'articulation se fait. Se réaliser. Est-ce de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas? Et il nous faudrait bien admettre, n'est-ce pas, comme relevant d'une pensée ordonnatrice. C'est le parti que prennent religion et métaphysique. Ils sont en cela du même côté. Elles donne la main dans les suppositions qu'elles ordonnent à l'être. Alors, ce que je veux dire, c'est que le savoir inconscient, celui que suppose Freud, se distingue qu'on en est, même la science arrive à le faire providentiel, ce savoir. C'est-à-dire que quelque chose, un sujet, l'assure comme harmonique. Ce qu'avance Freud, mais ce n'est pas tout, je le note en passant, c'est qu'il n'est pas providentiel. C'est qu'il est dramatique. Faites quelque chose qui part d'un défaut dans l'être, d'une désharmonie entre la pensée et le monde, et que ce savoir est au cœur de ce quelque chose dénommons existant, parce qu'elle insiste du dehors et qu'elle est dérangeante. C'est en ce sens que le rapport sexuel se montre chez l'être. Je ne suis pas le seul à caractériser d'être parlant, n'est-ce pas, qu'il se montre dérangé. Ceci en contraste avec tout ce qui semble se passer chez les autres êtres. C'est même de là qu'est venue la distinction de la nature et de la culture. Et très précisément, cette nature, si je puis dire, il nous faut bien ici la caractériser de n'être pas si naturelle que ça. Parce que de là où nous vivons, la nature ne s'impose pas. À nous, ce qui s'impose, c'est un autre mode de savoir, un savoir qui, d'aucune façon, n'est attribuable à un sujet qui présiderait à l'ordre, qui présiderait à l'harmonie, est en cela. Donc, tout d'abord, dans mes premiers énoncés, pour caractériser l'inconscient de Freud, il y avait une formule que je me trouve, je suis revenu plusieurs fois, que je me trouve avoir avancé à Sainte-Anne, qui est celle-ci. Dieu ne croit pas en Dieu. Dire Dieu ne croit pas en Dieu, c'est exactement dire la même chose que dire il y a de l'inconscient. Bien sûr, lors d'auditoire, n'est-ce pas que j'avais à l'heure, à savoir les psychanalystes, tel qu'il pouvait à cette époque se présenter, ça ne faisait aucun effet. Ça ne faisait aucun effet, mis à part ceci, de qu'il posasse la question si moi j'y croyais. Il y a quelqu'un depuis, enfin, n'est-ce pas, qui m'a défini en disant que j'étais quelqu'un qui croyait qu'il était Lacan, n'est-ce pas. C'était la façon dont j'avais moi-même défini Napoléon, mais sur la fin de sa vie, enfin, au moment où, en somme, mon Dieu, il était fou, n'est-ce pas, car croire son propre nom, enfin, c'en est la définition même. Bon, contrairement à ce que j'imaginais le nommé Gabriel Marcel, enfin, je ne crois pas en Lacan, mais je pose la question de savoir s'il n'y a pas stricte consistance entre ce que Freud avance comme étant l'inconscient et le fait que le Dieu n'y ait personne pour y croire, surtout pas lui-même, car c'est en ça consiste le savoir de l'inconscient. Le savoir de l'inconscient est tout le contraire de l'instinct, c'est-à-dire de ce qui préside, enfin, non seulement à l'idée de nature, mais à toute idée d'harmonie. C'est pour autant que, quelque part, il y a cette faille qui fait que la chose la plus naturelle, si l'on peut dire, celle qui nous paraît de notre point de vue, quand nous regardons quoi, des animaux, soit de tout à fait autre, des objets dans le monde, nous faisons là-dessus toutes les extrapolations que nous pouvons, ce que nous constatons, c'est quelque chose qui entre deux corps, semble faire quelque chose qui, incontestablement, est tout à fait différent, d'ailleurs, chez la plupart des espèces, que le rapport du corps masculin, celui du féminin, à savoir que il y a en somme entre ces deux corps, je dirais, très peu de ressemblance. Alors que chez les animaux, ce qui est frappant, c'est à quel point le mâle et la femelle, disons le mot pour aller vite et indiquer ma pensée, enfin, son narcissique. Alors, je voudrais avancer aujourd'hui, parce qu'il faut quand même que j'avance quelque chose qui est important. Ben, c'est que si j'ai mis l'accent sur ce sujet, ce qui au rapport sexuel fait obstacle, ce n'est rien d'autre que cette fonction que je me suis trouvé la dernière fois, réécrire au tableau sous la forme fils de X, et donc ce n'est pas pour rien que je l'ai écrite ainsi, mathématiquement. C'est pour autant que ce qui peut s'écrire, j'y fais confiance d'être dans la bonne direction pour en atteindre le réel. Qu'est-ce à dire? Est-ce que, parce qu'ici, il m'arrive quelquefois, ben, dans toute la mesure où vous me le permettez à cause de ce micro, d'écrire des choses au tableau? Est-ce que c'est là ce qui supporte ma relation avec vous, telle s'instaure dans ce discours. Je ne le crois pas, j'en pose sans cesse la question. Ce que je veux pointer ici, c'est c'est que je dis toujours la vérité. Et que là, s'inscrit dans le symbolique, je dis toujours la vérité, non pas seulement que je la répète, je ferai une voix qui fait exister un dire, et que votre rapport avec moi dans cette situation, c'est que cela vous fait jouir. J'en ai plus d'une fois posé la question, enfin, je tourne autour, mais ce qui est certain, c'est que là se trouve l'accent de ce juste dire que j'essaie d'énoncer, pour autant que ailleurs, sans doute, je prends appui sur l'écriture, mais que c'est du côté de l'écriture que se comporte ce où j'essaie d'intervenir. interroger ce qu'il en est de l'inconscient. Quand je dis que l'inconscient, c'est quelque chose dans le réel, j'ai dit savoir d'un autre côté, mais j'ai aussi souligné ceci, cette dimension de savoir.
Vous
pouvoir à ce moment vous le montrer au tableau d'une façon qui est évidemment aventurée, puisque, comme vous avez pu le voir, et à ma grande exaspération, j'y ai pataugé. J'y ai pataugé parce que, chose curieuse, il y a en somme, c'est cela que l'expérience signifie, il y a quelque chose de pas encore maîtrisé dans, vous savez, je vous l'ai indiqué, je vous le rappelle, de non encore maîtrisé dans ce qui est de l'ordre des nœuds. C'est étrange, c'est singulier, quoi. Il y a déjà quelque chose a pu en être avancé, que le nœud borméen s'était identifié à la tresse à 6 mouvements, 6 et pas 3, comme il me semblerait pouvoir y paraître, c'est déjà quelque chose. Et aujourd'hui, ce que je vous montre à m'être rapporté à ce que je vous avais déjà marqué, déjà écrit comme étant la forme la plus simple du nœud borméen, qui est très exactement, c'est-à-dire celle où nulle part il y a un troisième rond, le troisième rond ici étant représenté de part droite, que permettait de supposer infini, c'est une supposition tout à fait capitale et en elle-même éclairante, dirais-je, éclairante en ce qu'il est connu, c'est la première remarque que toute élaboration des nœuds, celle d'un Artin par exemple, dont peut-être vous connaissez le volume, certains d'entre vous en tout cas se le sont sûrement procurés, celle d'un Artin qui dit ceci, c'est qu'il n'y a qu'une seule façon sur une simple ligne d'affirmer que le nœud ne peut pas être dénoué, c'est de deux choses l'une, ou que ces deux bouts s'étendent en effet à l'infini, ce qui rend impossible de méconnaître quoi que ce soit qui se soit formé en eux, ou que les deux bouts s'en rejoignent, auquel cas ils se contrôlent, si oui ou non, c'est bien un nœud. Qu'est-ce que ceci nous suggère comme remarque? C'est que si cette droite dont on cite Borroméen en l'occasion, et qui se spécifie ceci, de croiser les nœuds, je dirais d'une façon couple premier, c'est autant le premier couple le second. Ceci, du même coup, impose la permanence de savoir qui sera le premier, qui sera coupé par le second qui rencontre en tant que lui-même un terme du premier rond, et qui coupera donc deux fois, qui coupera donc les deux fois le rond bleu, de même qu'il sera coupé par les deux fois par le rond vert. Le rond bleu et le rond vert, ce qui distingue, c'est que le rond bleu coupe le rond. C'est donc d'un rapport triadique que ceci reçu dans l'occasion ce qu'il fallait, et vous pouvez voir que la droite infinie impose ceci, qu'on ne peut lui donner aucune orientation. Car tout part d'elle. Il faut savoir si il y a un début pour que par rapport à ce début, une orientation soit prise. Par contre, il suffit que cette droite infinie soit raboutée en rond pour nous exprimer d'une façon qui n'implique nulle forme géométrique, mais seulement une consistance, pour que du fait même que nous lui donnons consistance de rond, il apparaisse quelque chose qui est l'ordre de l'orientation, non pas sur ce que j'ai appelé à l'instant cette droite que tout d'un coup j'ai faite rompre, mais dans le nœud lui-même, car vous voyez, vous voulez marquer à chaque fois par une correspondance, que c'est du fait que l'individu spécifié c'est du fait qu'il est mis par là sous la forme d'un rond, c'est de ce fait et d'un autre qu'apparaît ici cette orientation que je vais appeler l'évogie, si je m'oblige à suivre la direction que m'indique chacun des trois à l'extérieur du nœud qu'ils font, alors que de l'autre côté, c'est tout littéralement à savoir l'extrogile que nous verrons apparaître. Nous avons les choses sous cette forme que nous pouvons dire que ici dans l'autre s'est présenté sous un certain mode et précisément dans l'autre forme inversée.
Évidemment frappant que
réveiller qu'aujourd'hui encore, n'est-ce pas, je me suis trouvé, même sous cette forme ultra simple, en difficulté à vous faire sentir, en difficulté à le démontrer moi-même dans l'écriture, ce qu'il en est de l'effet de rabattement, pour autant que déjà quand il s'agit est un des termes choisis comme tel et distingué des deux autres en quelque sorte préalablement. Que c'est en ceci que cet objet d'écriture nous présente quelque chose de particulièrement saisissant. C'est que voilà une écriture qu'en quelque sorte, je dirais que nous maîtrisons difficilement. C'est assez frappant que déjà dans un second temps, c'est-à-dire après avoir cru que je m'en tirerais bien à mon aise par cet artifice, que je me suis trouvé de nouveau avec l'écriture m'embarrasser, m'embrouiller. Est-ce que ce n'est pas là le signe de quelque chose qui a présidé à l'aversion, aversion tout à fait frappante quant aux mathématiques, aversion qui se produit à l'égard de ce qu'il est des nœuds. Car, après tout, il n'aurait pas été inconcevable que ce quelque chose qui s'est dessiné dans une géométrie développée qui a fonctionné effectivement tout à fait comme écriture, c'est amorcer la science, je veux dire, dans la géométrie grecque. Il est tout à fait frappant de voir que ça aurait pu aussi bien être dans un effort concernant le coinçage, par exemple, produit quand chacun de ses ronds, c'est à savoir en quoi le symbolique diffère de l'imaginaire et diffère du réel. Pour éclairer très vite, comme je peux le faire, pas plus cette lanterne, donnez-moi un cigare, dans cette lanterne, je dirais que le symbolique, j'avancerai que le symbolique est l'ordre du un. Ce un que la dernière fois je vous ai déjà avancé comme constituant dans l'ordre logique qu'essaie de construire notre poule comme étant l'univers. Je vous ai fait remarquer en même temps qu'il y a là quelque chose de contestable, car c'est déjà posé l'hypothèse que de faire de l'univers quelque chose de un. À l'encontre de ceci, et dans la lune même où Boulle procède en posant la formule X facteur, entre parenthèses, de 1 moins X, et en la posant égal 0, à savoir tout ce qui n'est pas X, c'est ce qui est X, soustrait à l'univers. Et leur produit, leur intersection, leur rencontre est strictement égal 0. C'est sur cette base que Boulle croit pouvoir avancer une formalisation de ce qu'il en est de la logique. Tout à son opposé, je propose de donner au 1 la valeur de ce dans quoi, par mon discours, consiste en tant que c'est elle qui fait obstacle au rapport sexuel, à savoir la jouissance phallique. C'est pour autant que la jouissance phallique, et là, disons que fait organe, je la suppose incarnée, parce que dans l'homme, il correspond comme organe, c'est pour autant que cette jouissance prend cet accent privilégié tel qu'elle s'impose dans tout ce qui est notre expérience analytique, c'est là autour, et parce que ce n'est que Là autour, l'individu lui-même sexué qui tant que cette jouissance est privilégiée, que toute l'expérience analytique s'en donne, et je propose ceci, que ce soit à elle de rapporter la fonction du 1 dans la formalisation logique telle que coule la promesse. En d'autres termes, que s'il y a signifiant, et signifiant, ce n'est pas signe. Signifiant se distingue du signe en ceci que du signe nous pouvons faire circulation dans un monde objectifé. Le signe, c'est ce qui bat l'émetteur au récepteur et ce qui au récepteur fait signe de l'émetteur. Mais c'est tout au contraire sous la forme de ce que j'ai appelé le message reçu sous forme inversée, que se pose le signifiant pour qui ? C'est en tant qu'il a rapport à un autre signifiant qu'il fait surgir un sujet, à savoir dans sa configuration. Ce qui se suggère de ceci, c'est que pour autant quelque chose qui est désigné dans boule par un X, quelque chose se précipite comme signifiant. Ce signifiant est en quelque sorte dérobé, soustrait, emprunté à la jouissance salique elle-même. Et c'est en tant que signifiant en est le substitut que le signifiant même se trouve faire obstacle à ce que jamais s'en écrive ce que j'appelle le rapport sexuel. Je veux dire quelque chose qui serait supposé pouvoir être écrit X, grand R, et puis Y, à savoir que d'aucune façon puisse s'écrire d'une façon mathématique ce qu'il en est.
Coupure milieu de bande.
Autant que ce qui s'écrit, c'est E de X. Non fidrice, négation de la fonction phallique elle-même, et tout à l'opposé, qu'il n'y en ait pas, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de X pour dénier la fonction fidrice, pour s'y opposer, et qu'inversement, j'introduis au niveau de l'universel ce quelque chose adhérent à la fonction phallique, se caractérise d'un côté par un grand A, grandeur universelle, un grand A inversé, vous savez que c'est ainsi que ça s'écrit, mais dans l'autre, il met une part négative, c'est-à-dire dit qu'il y a quelque part une fonction qui distingue de naître. Pas toutes. Pas toutes, qu'est-ce que cela veut dire? Le moins qu'on puisse dire, c'est que j'en ai deux. C'est dans la mesure où au niveau où s'articule ce pas toutes, il n'y a pas qu'une jouissance. Ici, n'allez pas trop vite. Ici, n'allez pas trop vite et n'allez pas supposer que ce que je distingue, c'est je ne sais quoi, comme si sexuellement répondrait à cette prétendue division de la jouissance clitoridienne à la jouissance vaginale. Ce n'est pas de cela dont il s'agit. Ce dont je parle, c'est de cette distinction qu'il faut faire de la jouissance phallique en tant que chez l'être parlant, elle prévaut. Et que c'est de là qu'est dérobée toute la fonction de la signifiance. Il y a une distinction à faire entre cette puissance prévalente pour autant qu'elle fait obstacle à ce qu'il en est du rapport sexuel. Il y a une distinction à faire de cette jouissance avec ce que, à cause de vous l'ai introduit l'autre jour, je pense suffisamment avec ce qu'il en était de l'arbre dit la science du bien et du mal. Il y a ceci, assurément, l'animal se distingue de ce qui est non seulement un corps, mais que ce corps, comme tel, ne s'identifie, n'a d'identité, non pas comme on le dit toujours traditionnellement de la pensée, de ce je ne sais quoi qui pense, répète, mais de ce qu'il jouit de lui-même. Je veux dire qu'il n'y a pas seulement cette aperception, appréhension, sensation, pression, toucher, vu ou n'importe quel autre mode d'affectation par les sens, il y a que en tant qu'il consiste, et qu'il consiste en un corps dont il s'agit, c'est d'une jouissance, et d'une jouissance qui se trouve, d'après notre expérience, est d'un ordre autre que ce qui en est de la jouissance phallique. C'est ainsi que ce que j'ai commencé début de mon enseignement par authentifier, par originaliser de la relation imaginaire. Faire référence à ce que j'appellerais l'homologie, la ressemblance. Justement, cette partie qui est tellement vacillante quand il s'agit de l'être parlant, de l'homologie des corps, que chez l'animal, il nous faille bien constater que la jouissance phallique, quelle qu'elle soit, n'a pas la même prévalence, n'a pas le même poids, en quelque sorte, d'opposition, qui là au regard de la jouissance, entend que deux corps jouissent l'un de l'autre. C'est là qu'est la faille, car où parole, comme je l'ai dit, je l'ai évoqué antérieurement, que si l'on parle de nœud, c'est faire allusion à l'embrassement, à l'étreinte. Mais autre chose est la façon dont fait l'éruption dans la vie de chacun, cette jouissance. Soit appartient, si on peut dire, à l'un du corps, mais à l'autre, il apparaît que, sous cette forme, si l'on peut dire, de référence à un autre comme tel, même si quelque chose dans le corps veut lui donner un support. Je veux dire au niveau de cet organe qui s'appelle le clitoris. C'est en temps qu'il nous faut concevoir le symbolique comme dérobé, soustrait à l'ordre 1 de la jouissance phallique, et en tant que le rapport des corps en tant que deux, de ce fait, ne peut passer par la référence, la réflexion à quelque chose qui est autre que le symbolique. Il en est distinct. Et c'est à savoir ce qui, d'ores et déjà, du trois, apparaît dans la moindre écriture. Que le langage, en quelque sorte, sanctionne, c'est le fait dans sa formalisation, il impose autre chose que la simple homophonie du dire. C'est que c'est dans une lettre, et c'est en cela que montre cette précipitation par quoi l'être parlant peut avoir accès au réel. C'est pour autant que toujours, chaque fois qu'il s'est agi de configurer quelque chose qui soit en quelque sorte la rencontre de ce qui s'émet, de ce qui s'émet comme l'énoncé d'une vérité, chaque fois qu'il s'agit, tout ce qu'il en est, ni dire alterné, contracté, chant alterné de ce qui l'est. Séparer en deux moitiés l'être parlant, chaque fois qu'il s'agit, c'est toujours une référence à l'écriture que si dans le langage peut être situé, trouve son réel. C'est en tant que j'essaierai de pousser plus loin cette référence au réel.